Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, zou.
Il y a des trains mythiques comme l'Orient Express ou le Transsibérien, mais c'est bien connu, un train peut en cacher un autre. Et derrière ces lignes ferroviaires au nom évocateur se cache une multitude de trains moins connus qui valent pourtant le détour. Des petits funiculaires de Valparaiso au Chili, aux trains chasse-neige de Finlande en passant par les rails d'Indonésie qui auraient des vertus anti-rhumatismales. Prendre le train, c'est aller de surprise en surprise. C'est aussi un lieu formidable pour échanger avec les habitants du pays que l'on traverse. Le journaliste Philippe Googler l'a bien compris. Depuis 2011, il présente la série documentaire Les trains pas comme les autres. On peut actuellement découvrir la 7e saison de cette série sur France 5. Le prochain épisode inédit est consacré à la Finlande. Il sera diffusé jeudi prochain à 20h50. L'occasion pour Philippe Googler de nous emmener avec lui dans ses aventures ferroviaires, le temps d'un bivouac. Et puis en fin d'émission, notre séquence L'aventure en direct nous conduira à la Réunion où le piton de la Fournaise est entré en éruption depuis plusieurs jours. Nous serons donc en ligne avec une vulcanologue sur place qui nous dira ce qui se passe. On dit bien Googler.
Bonjour. Elle est pas facile d'accès, cette gare. Il y a rien autour, là.
Ah, bah c'est pas simple, ici. Il y a rien. Il y a que le train pour aller en ville.
Et les gens, ils viennent à pied de loin pour prendre ce train ici?
Ah oui, à cheval, à pied. Tu sais, il y a des gens qui marchent jusqu'à 6 km pour arriver à cette gare. D'ailleurs, il y a le train qui arrive.
Il arrive? Ah, le voilà. Je suis arrivé juste.
Il est beau, hein?
Il a une tête, ce train. Allô, hola.
Bonjour, comment allez-vous? S'il vous plaît, si vous voulez bien monter.
On est bien reçu.
Nous étions donc au Chili. Où se trouve-t-elle exactement cette petite gare qui a l'air vraiment au milieu de nulle part, hein, Philippe Googler?
C'est au cœur du Chili central. C'est des noms imprononçables. C'est des lieux où peu de gens vont. C'est pas les grands glaciers du sud. C'est pas le désert de l'Atacama. C'est pas Santiago. C'est pas Valparaiso. C'est nulle part au centre. Et il y a une toute petite ligne de rien du tout qui dessert des villages, comme la ligne dont je vous parlais tout à l'heure, qui dessert des villages qui sont assez peu desservis par la route, ou alors c'est des pistes improbables avec des nids de poules épouvantables. Et donc c'est un train qui fonctionne un peu comme un bus, on l'appelle là-bas le bus carril, et les gens l'arrêtent quand ils passent, s'ils font pas assez, ils s'arrêtent pas, et puis on vient à pied, à cheval, en barque, le prendre avec ses poules, ses canards, ses galettes, et puis si vous voulez avoir une idée du Chili, de son atmosphère, de son humeur, vous allez directement là, vous le prenez et vous êtes tout de suite dans l'ambiance.
C'est vrai qu'à bord de ce train, il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance.
Ah, il y a une vendeuse de tortillas.
Moi, je vous en prends deux.
Oh, des bonnes tortillas chiliennes.
Et gros succès, qu'est-ce que vous vendez?
Des tortillas de maïs.
Ce sont des galettes de la région, de la campagne. Elles sont super bonnes.
Je peux voir vos tortillas?
Je les ai déjà toutes vendues. Tiens, regarde, c'est ça une tortilla.
Ah, elles sont chaudes?
Oui, c'est ma mère qui les a faites ce matin.
Ça sent bon.
Il y a souvent une bonne ambiance dans les trains que vous prenez. Je ne sais pas si vous les choisissez comme ça, si vous déclenchez ça autour de vous, mais c'est souvent assez sympathique.
On fait un peu exprès. Moi, j'aime bien les petits trains comme ça qui partent de nulle part. J'aime bien aller dans des endroits où on n'irait pas, ouais, juste parce qu'il y a un train. Parce que, voilà, on y va parce qu'il y a un train et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et là, c'est une petite merveille. Alors, pour ceux qui voudraient vraiment le prendre, je pense à vos auditeurs, en fait, c'est le train dont le terminus est la petite ville de Constitución, donc au centre du Chili. Et donc, la vendeuse de tortillas, là, j'adore parce que elle vend ses tortillas dans le train, elle appelle tout le monde vient, puis j'essaie de l'interviewer, et puis elle me dit non, je veux pas parler, j'ai pas le droit de vendre mes tortillas dans le train, c'est interdit. Alors, je dis, qu'est-ce que je fais? Je peux pas vous parler. Non, ils savent pas. Puis, en fait, elle me dit ça, elle est juste à 3 mètres derrière le chauffeur. Je dis, mais enfin, vous vous moquez de moi? Ah oui, mais bon, c'est un ami. En oui, fait, tout le monde se connaît.
Oui, c'est ça. C'est quand même une ambiance assez conviviale. Vous dites que c'est souvent le wagon restaurant dans lequel il faut se rendre pour humer l'ambiance du pays.
Ouais, le wagon restaurant, c'est un lieu formidable parce que c'est là qu'on discute. Moi, je regrette amèrement qu'il n'y ait plus de wagon restaurant, mais des vrais avec une table, une nappe blanche, des couverts en métal et des verres.
À l'ancienne.
À l'ancienne. Parce que, en fait, quand vous prenez un repas, le temps ne passe pas de la même façon. Donc, qu'est-ce que ça peut faire de mettre plus longtemps en train si on fait un bon repas avec ses amis? Et du coup, le rapport au temps change, on n'a plus besoin d'avoir un train rapide, on prend juste du plaisir. Et moi, je regrette beaucoup les wagons restaurants. Il y en a des formidables là, sur Terre. J'ai le temps de vous en citer un.
Allez-y.
Ah non, mais il y en a un. Si vous voulez faire le plus beau wagon restaurant de votre vie, alors, c'est pas le décor qui est beau du train, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Parce que vous vous installez le long de la fenêtre, très important, le long de la fenêtre, vous réservez votre table avant, ne soyez pas au milieu. Hein. Donc, le long de la fenêtre, sur un train qui s'appelle le Tren de las Nubes, qui est un train en Argentine, qui est un train qui monte très 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 haut près des nuages, comme son nom l'indique. Et là, vous franchissez des montagnes incroyables, des canyons, des montagnes rouges. Vous avez l'impression que vous êtes sur Mars et vous êtes en train de manger. Et c'est un spectacle. Et là, je vous jure, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Vous faites trois repas de suite tellement c'est formidable. C'est beau.
Mais alors, effectivement, les trains d'altitude, ça a l'air d'être assez spectaculaire. Il y en a un autre, hein, aussi en Amérique latine. C'était au Pérou, je crois, qui relie Lima à Huancayo. C'est le plus haut d'Amérique, d'ailleurs, hein, ce train.
Alors ça, c'est un autre train des nuages. Il l'appelle aussi le train des nuages. Alors celui-là, il faut faire très attention parce que il monte très vite.
Ouais.
Et donc, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez avoir un bon petit mal d'altitude. Et ce que vous ressentez en arrivant en haut, c'est une espèce d'euphorie douce. On n'utilise plus beaucoup ce mot, mais c'est ça, genre pompette. Vous voyez, un petit peu pompette.
Et ivre d'altitude.
Ivre d'altitude, un peu léger, vous flottez. Et puis donc, comme vous êtes content, vous allez boire un coup pour fêter ça. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous mettez de l'alcool sur du mal d'altitude, le lendemain, vous êtes très, très, très malade. Et là, vraiment, vous passez deux jours à l'hôtel. Et c'est pas drôle. Mais écoutez les gens du coin qui vous expliquent comment gérer tout ça. Et si on y va doucement et en écoutant les bons conseils des locaux, ça se passe bien.
Il monte tellement raide qu'il fait il change de sens. C'est-à-dire qu'il va dans un sens, puis après, pour attaquer la montagne, il repart dans l'autre sens. Ouais. Il fait un peu des diagonales comme ça, sans prendre de virage.
Il fait des zigs et des zags. C'est les zigzags. Ouais, c'était la technique qu'on avait trouvée à l'époque pour éviter d'avoir à construire d'immenses virages qui grimpent en douceur. Ouais. Donc le train avance d'un bout, on change un petit aiguillage, il repart en arrière et puis il repart en avant et en zigzag.
Ouais. Alors il y a une autre technique, hein, quand vraiment la pente est trop raide, là on peut passer au modèle funiculaire. Ça c'était à Valparaíso, au Chili, avec un pilote qui commande le funiculaire à distance.
Je peux entrer ?
Oui, bien sûr.
Et là c'est le poste de commandement ?
Exacto.
Oui, c'est ça.
Il descend raide, hein, celui-là. Alors, ça, c'est le levier qui actionne quoi ?
Ça, c'est la vitesse.
D'accord.
C'est comme un accélérateur.
Et l'autre ?
C'est le frein.
Ah, c'est vous qui freinez ?
Bah oui.
Qu'est-ce qui se passe si jamais vous oubliez de freiner ?
Ah ben, la cabine ne s'arrête pas et tout le monde tombe.
Et donc, vous avez la vie des passagers entre vos mains ?
Ah bah oui.
Ah mais j'en reviens pas. Ah oui, donc vous vous occupez de fermer la porte et de piloter
la
porte.
Ah oui, je dois vérifier que la porte soit bien fermée, bien verrouillée. Et après, je reviens ici et j'attends que la cabine du bas soit prête pour le départ. Je le sais grâce au signal, cette lumière-là. Quand elle s'allume, ça veut dire qu'en bas, la cabine est pleine et la porte fermée.
D'accord, ok.
Donc je peux lancer la machine.
Vous êtes le premier conducteur de train que je rencontre qui ne bouge pas d'un centimètre.
C'est pas vraiment un train, tu sais, c'est un ascenseur.
Alors, on a affaire à un train ou un ascenseur, là, Philippe Bouclet ?
C'est un peu les deux, c'est... Ça a beaucoup de charme, ça date du 19e siècle. Ouais. Et puis alors surtout, je ne sais plus si on l'a entendu dans l'extrait, mais c'est le gars qui freine la cabine à la fin. Hein. Ouais. Donc c'est un peu flippant parce que vous vous demandez s'il va bien freiner au dernier moment.
Surtout qu'il n'est pas lui dans la cabine.
Non.
C'est-à-dire qu'il est de loin, il pilote ça à distance, il oublie de freiner, c'est toute la
qui
s'écrase.
Mais bon, les gens prennent ça très régulièrement. Valparaíso, c'est une ville qui est construite sur une quarantaine de collines.
Ouais.
Donc il y a beaucoup de pentes. Et donc le Chilien, comme le Français, comme le Népalais, est un peu paresseux. Et il n'a pas envie de monter les côtes. Et donc, c'est très usité dans le sens de la montée, un peu moins dans le sens de la descente. Et c'est vraiment, ça fait partie des transports en commun de la ville.
Ça fait partie du décor, c'est très beau. Ils sont même classés monuments historiques, ces petits wagons. Alors, ils ont tous une histoire. Parfois, elle est tragique. Hein. Il y a un train que vous avez pris, c'était au Sri Lanka, je crois. Sur cette ligne-là, le tsunami, le fameux tsunami de 2004 avait frappé. Mmh. Et là, vraiment, on dénombre 1700 morts parce que le train, l'intégralité du train avait été soufflé par la vague. On dénombre 1700 morts. Il y en avait certainement plus, en fait, on ne sait pas exactement. Vous avez pris ce train. Là, une atmosphère un peu différente, évidemment, un drôle de sentiment quand on passe là.
Oui, parce que tout le monde se souvient de ça. Nous, ça nous paraît très ancien, mais c'est vraiment un événement qui a profondément marqué cette région. Et il faut savoir, peu de gens l'ont dit à l'époque, que s'il y a eu autant de morts dans ce train, c'est parce que, en fait, bon, pour faire bref, le tsunami a eu lieu en deux grosses vagues. Et lors de la première vague, le train a résisté. Donc il est resté au milieu de l'eau, en quelque sorte. Mmh. Et les gens du village du coin, par peur de ce qui se passait, sont venus se réfugier dans le train. Et donc, le train était absolument surbondé. Et là, il y a eu une deuxième vague qui a emporté le train. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de morts. C'est parce que ça a été pris pour un refuge, comme un lieu solide. Et puis là, le train a vraiment été emporté. Non, c'est terrible. Il y a une stèle aujourd'hui, toujours à l'endroit où a eu lieu le drame. Et ce que vous constatez aussi, parce que j'y suis retourné plusieurs fois, ce que vous constatez aussi, c'est que là où a eu lieu le tsunami, eh bien, les constructions ont repris. Ouais. Et que on n'est pas totalement à l'abri d'un nouveau drame.
On l'entend, hein, aller avec ces trains dans ces pays, c'est vraiment aller à la rencontre des gens, d'une histoire, qu'elle soit joyeuse ou pas d'ailleurs. Vous étiez au départ un passionné de train à la base, ou c'est finalement cette émission, Des trains pas comme les autres, qui vous a mis sur les rails?
Eh ben, un peu les deux à la fois. C'est quand j'étais tout gamin, mes parents habitaient dans un village à la campagne, et en bas du village, il y avait une voie ferrée. Alors le lieu a rien de poétique, hein, c'est au bord d'une espèce de zone industrielle. Ouais. Mais il y avait une très grande ligne droite. Et vous savez, quand on est gamin, quand on a 7-8 ans, on part, on rêve à plein de choses, on se pose des questions métaphysiques. Est-ce que mes parents sont bien mes parents? Tout ça, vous voyez, toutes ces choses-là. Et donc j'allais sur un pont au-dessus des rails et je rêvais. Et c'est un des lieux qui me faisait le plus rêver. Ouais. Et donc j'ai toujours associé le train au rêve comme ça, et au voyage, et au départ, et au lointain. Et donc j'ai toujours aimé les trains, pas comme un gars qui aime la mécanique, mais plus comme quelqu'un qui aime partir, qui aime le voyage. Puis qui aime... Vous savez, le train, c'est comme une petite maison qui se déplace. Donc vous êtes bien dans votre maison, vous faites des amis, vous parlez aux gens du coin. Donc vous êtes à la fois dans un petit cocon, puis en même temps, ça vous promet un lointain, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et le mélange des deux, la sensation d'être bien et en même temps d'aller ailleurs, ce mélange-là, c'est ça qui est très fort.
Philippe Gougler, le présentateur de la série documentaire Des trains pas comme les autres, diffusée sur France 5, nous emmène sur les voies ferrées du monde, le temps d'un bivouac sur France Inter. Bella, come on home, Portobello, Portobello, my pretty little darling, please come home to me. Portobello, I saw you with a fella, and I don't like the idea. Portobello, you told me that you love me. There's no one else above me. Portobello, you took all my money, then told me you don't want me. Portobello, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. Darling, please come home to me. Portobello, you took all my money, then told me you don't want me. Portobello, you told me that you love me. There's no one else above me. Portobello, you took all my money, then told me you don't want me. Portobello, you know that I love you, but you still go away. Come back.
back, come back to me, baby, each and every day. La 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 da.
Artibella, c'était Ken Boss et Ina de Yard sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, allongé sur les rails ?
Je fais ma thérapie contre les rhumatismes.
Votre thérapie des rhumatismes ? Et comment ça ?
Attention, il y a un train.
Il y a un train qui arrive en plus. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Scène absolument surréaliste, hein. Nous sommes en Indonésie, Philippe Googler. Vous arrivez le long d'une voie ferrée et vous trouvez, mais pas qu'une ou deux personnes, plein de gens allongés sur les rails.
Ouais, tout un groupe. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs sur la planète.
Ah ouais.
Pourtant, j'en ai fait des trains, mais alors celui-là. Donc tout un groupe de gens, comme une grande famille, allongés avec tous la tête du même côté, la tête sur un rail et les pieds sur l'autre, comme ça, en travers. Et ils sont allongés. À un moment où il y a beaucoup de trains qui passent, hein, c'est pas sur une voie désaffectée. Et ils sont là, tous sourires aux lèvres, et ils attendent. Et là, j'en crois pas mes yeux.
C'était à Jakarta.
C'était à Jakarta, dans la proche banlieue de Jakarta.
Et alors, ils vous expliquent pourquoi ils sont là.
Ben, ils sont là parce qu'ils viennent essayer de guérir. De guérir de quelque chose. Alors bon, je ne suis pas médecin, je ne m'avance absolument pas sur les vertus thérapeutiques du rail.
Oui. C'est pour soigner, soi-disant, leur rhumatisme. L'Indonésienne qui vous explique ça, il croit dur comme fer à ses bienfaits du rail, même si c'est un peu difficile pour elle de dire pourquoi.
Je ne sais pas trop, mais c'est un fait. Quand tu touches les rails, tu sens le courant qui te traverse et ça remonte le long de tes bras. Tu te sens tout de suite mieux. Ça picote. C'est très agréable.
Alors, ça picote, ouais.
Ouais, ça picote.
Moi, ça picote.
Vous avez testé, hein.
J'ai testé.
Mais vous n'aviez peut-être pas de rhumatisme en même temps.
Je ne dirai pas tout. Mais en tout cas, je confirme que ça picote. Et alors, vous savez, elle m'a même dit que ça picotait plus le matin aux heures de pointe parce qu'il y avait plus de trains, donc plus de courant.
Mais il n'y a pas d'accident parce que c'est vraiment dangereux. On voit régulièrement, tout le monde se lève, voilà un train et hop.
Oui, tout le monde se lève, voilà et hop. Non, mais c'est juste n'importe quoi. Hein. C'est hallucinant. Et les gens, en plus, sont à pieds nus. Ouais. Donc essayez, vous avez déjà vu le ballast des chemins de fer, les cailloux qui sont sous les rails. Ouais. C'est pointu, ça fait mal aux pieds. Ouais. Donc quand vous êtes pieds nus avec vos pieds sur les rails, vous devez vous lever à toute vitesse pour courir, pour échapper au train, et vous blessez les pieds parce que ça fait très mal. Non, c'est horrible.
Ouais. Alors tout ça montre en tout cas à quel point une population peut vivre proche de son train.
Ouais. À Jakarta, c'est le cas. Hein. Il y a des quartiers entiers qui vivent au ras des rails, et on a assisté à des scènes très, très touchantes, notamment dans l'émission qui est passée la semaine dernière, sur l'Indonésie, mais qui qu'on retrouve en replay.
Oui, c'est encore là, l'épisode dont on parle, l'Indonésie, est encore regardable en replay sur le site.
Tout à fait, de France 5. Et il y a des gens qui vivent au bord des rails, et on a assisté au mariage, un mariage le long des rails. Alors vous avez le prêtre qui essaie de parler entre deux passages de train, et donc je dis au mari, mais pourquoi vous vous mariez là? Il y a peut-être un endroit plus calme. Ah ben non, on est né là, donc on veut ça. Et c'est très mignon, très touchant.
Et vous ne manquez pas d'ailleurs de poser la question qu'il faut poser, mais est-ce qu'on va entendre le oui de la réponse si le train passe?
Et l'imam répond, c'est pas grave, de toute façon, s'ils veulent se marier, c'est que c'est déjà oui.
Oui, voilà, c'est ça. Finalement, ça n'est qu'une formalité. Alors, évidemment, ces trains, c'est aussi l'occasion, on l'a dit, de discuter. Et on est toujours en Indonésie. Là, c'est une discussion qui s'entame avec une dame qui vous parle du statut des femmes sur son île.
Et ce côté relax, comme ça, détendu, ça vient d'où ?
C'est peut-être parce que dans notre région, le Minangkabau, la société est faite à l'image des femmes. Ce sont les femmes qui transmettent et reçoivent l'héritage familial. Et surtout, le nom de famille est transmis par les femmes. On est au centre de la famille.
Et alors, est-ce que c'est les femmes qui commandent ?
Oui, c'est ça. On commande. Et on y tient.
Et ça, c'est valable seulement dans cette région de Minangkabau ou c'est valable dans toute l'Indonésie ?
C'est vraiment typique de notre région. C'est une tradition. Ailleurs, à Java ou sur les autres îles, c'est, disons, plus classique. Les femmes ont moins de chance.
La discussion s'engage très simplement et puis on parle vite de choses finalement assez profondes dans ces trains.
Ben c'est l'avantage des trains, c'est que les gens ont le temps. Et puis à partir du moment où vous êtes un peu curieux envers l'autre, l'autre il a plutôt tendance à se confier. Puis surtout, il faut pas oublier que pour les autres, pour les gens du train, ils ont pas l'habitude de voir des caméras étrangères dans leur train de tous les jours. Donc ils sont tout aussi curieux que nous. Et donc l'échange s'installe assez vite en fait.
C'est curieux parce que finalement l'Indonésie c'est un pays constitué de milliers d'îles. On aurait pu penser que dans ce pays-là, le train ne serait pas le moyen de locomotion le plus adapté. Finalement, on trouve pas mal de trains.
Vous avez pas tort parce qu'il y a plus de 13 000 îles en Indonésie. Donc, il n'y a pas des trains partout. Il y a des trains essentiellement à Sumatra et à Java. C'était construit, installé par les Hollandais, lorsque donc c'était une colonie hollandaise, pour transporter les matières premières, le bois, etc. Et là où il y a le plus de trains, c'est à Java, parce que c'était l'île économiquement la plus prometteuse. Mais c'est un moyen très utilisé sur Java, vraiment.
Alors dans le registre rencontre dans le train, on change complètement de décor. Là, ça peut être l'occasion de découvrir la langue de l'autre aussi. Alors cette fois, nous sommes dans un train finlandais parce que là aussi, en Finlande, il y a des trains. Vous avez même vu un train chasse-neige en Finlande. Les trains roulent l'hiver malgré la neige parce qu'il y a des trains chasse-neige. Voilà.
Et il m'a annoncé, j'ai plus le chiffre exact, donc ne m'en voulez pas si je dis une bêtise, mais je crois qu'ils avaient malgré des mois et des mois de neige à peu près 3 jours où les trains circulaient un peu difficilement.
C'est ça.
Avec des mois de neige.
Oui. Ça fait réfléchir, parce que nous, dès que ça neige un peu, on n'arrive plus à avancer. Mais ça coûte très cher d'avoir les trains chasse-neige.
Oui,
aussi,
non, puis je pense qu'ils sont très équipés, très entraînés pour ça. On n'est pas un pays où on a des mois de neige, donc la relation n'est pas la même.
Alors je parlais donc de l'occasion de discuter de la langue, donc cette fois dans le train finlandais.
Et comment est-ce que vous dites, comment allez-vous ?
Ça, c'est plus compliqué. On n'a pas vraiment de formulation pour ça. Dans la langue finlandaise, ces petits échanges n'existent pas. Les « comment ça va ?» et « bien, et toi ?» Tous ces petits blablas, on n'en a pas. Si tu demandes à quelqu'un comment il va, il te répondra très honnêtement et réellement comment il va.
Bon, vous ne dites pas « comment ça va ?» mais comment est-ce que vous dites « oui » par exemple ?«
Gulla ».«
Gulla ».
«
Gulla ». J'adore les sons. Et comment vous dites « non » ?«
Ei ».«
Ei ». Ah oui. C'est vrai, ça ressemble à rien. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est vraiment... C'est, ça vient d'ailleurs. « Gulla » et « ei ».
Ça ressemble à rien, Philippe Bouglier. Faites attention quand même, vous pourriez vexer des gens.
Mais c'est vrai que c'est une langue improbable, qui viendrait donc des lointaines contrées proches de la Mongolie. Enfin, c'est vraiment c'est une langue très improbable. Enfin, et ce que j'aime bien chez les Finlandais, c'est leur côté pratique. Vous savez, elle dit si vous me demandez comment ça va, je vais répondre pratique. Elle va vous répondre, j'ai un peu mal à l'oreille, mais mon pied ça va et mon orteil gauche il est en pleine forme. Mais donc pas de détails, du pratique, mais en même temps un petit grain de folie. À Helsinki dans ce même programme qu'on va voir donc jeudi sur France 5
à 20h50. Je vois la scène dont vous voulez parler. C'est celui qui pêche les poissons, non? C'est pas celui-là que vous pensez?
Alors il y a celui-là, il est marrant. C'est un petit gars tout seul au milieu d'Helsinki qui effectivement fait un trou dans la glace pour pêcher son poisson. Bon, c'est des scènes un peu improbables. Non, Moi, je pensais plutôt à la scène de la messe. On va à la messe et le curé, bon, il est assez corpulent. Voilà, il tient sa place. Il a des pins partout. Il a un look de rocker. Et puis, il dit, bah, va venir ce soir. Vous allez voir, ma messe, elle est pas comme les autres. Et donc, la messe commence classique. Et tout d'un coup, tous les psaumes, toutes les prières sont joués en hard rock. Hard rock et métal. Mmh. Et vous avez donc tout le monde, tout le public qui est là, qui n'est pas surpris, qui vient et qui tape du pied pour la messe. Et vous avez des grands-mères qui sont un peu sensibles des oreilles, qui ont des boules-quies et qui mettent des boules-quies au moment des psaumes. Mmh. Et tout le monde chante, danse. Enfin, c'est incroyable.
Oui, ben on va essayer de vous croire alors.
J'espère que tout le monde a bien son livre pour chanter et que vous allez tous chanter. Vous pouvez chanter de tout votre cœur, alors profitez-en. Ici, les voisins ne vous entendront pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
amen.
Il y a un côté pas de boogie-boogie avant vos prières du soir.
Oui, donc, c'est ça.
On est en Finlande.
C'est dément. Mais les Finlandais sont comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce peuple parce qu'ils sont très discrets. Ils ont subi dans l'histoire beaucoup de... Ils ont dû supporter la domination suédoise, russe, etc. Mais ils sont toujours restés eux-mêmes. Vous savez, ils sont à la fois discrets, humbles, mais en même temps, ils vont jusqu'au bout. Et il y a cette côté détermination discrète, vous voyez. Viking humble.
Une question que je me posais, là, quand on voit toutes ces rencontres que vous faites, notamment dans les trains, est-ce qu'elles sont toutes à l'improviste? Est-ce que ce sont des gens qui ont été rencontrés auparavant et puis on leur dit, tiens, bah là, ce serait bien pour le tournage? Parce qu'évidemment, vous êtes toujours avec des caméras pour que nous, on puisse après en profiter. Quelle est la part d'improvisation, en fait, dans ces rencontres que vous faites dans les trains?
Alors, dans les trains, l'improvisation est totale, puisque c'est impossible de prévoir, de calculer les choses. Vous vous rendez compte, si on voulait prévoir des gens, il faudrait les faire monter dans le train à un moment, les emmener à un autre, les faire descendre, les faire rentrer chez eux, enfin, ce serait une organisation infernale. Et moi, j'aime beaucoup justement ce qui se passe dans le cadre des relations spontanées. Donc, ouais. Non, dans les trains, vraiment, c'est totalement spontané. Après, dans les séquences, évidemment, on a une petite idée d'où on va. Et il y a un mélange de spontané et un mélange de préparé. Ouais. Je ne vais pas vous cacher que la messe à Hard Rock...
Là, vous l'aviez repéré.
On l'avait repéré, on en avait entendu parler. Donc, on est allé voir comment ça se passait. Mais je ne suis pas allé voir comment c'était avant. Je n'ai pas discuté longuement avec le prêtre pour savoir comment organiser les choses. On s'est laissé porter. Donc c'est un mélange comme ça. Il y a beaucoup d'impro puis une part de préparation.
Alors si vous prenez tous ces trains, ce n'est pas uniquement pour le plaisir d'être en mouvement, c'est aussi pour découvrir des lieux, des paysages, des histoires. Vous avez vécu des moments formidables lors de ces voyages. Vous allez nous en raconter quelques-uns dans un instant.
Silhouettes are getting closer, bring you what you need, never what you hope for.
stripes on the trains in silver and black. Then I make my way back across the track. I can always find you wherever you are. There's fire in your eyes in the Miracle Park. I'm on the very last train to wherever. Reckon that I see you sometime like never. Like even in my wildest days, I feel that it would go like this. Moving through the air, crazy kind of poet kid. I owe you this, I say to myself. I owe you this and nothing else. I owe you this, I say to myself. I owe you this and nothing else. I owe you this, I say to myself. I owe you this and nothing else. I owe you this, I say to myself. I owe you this and nothing else.
Last Train to Wherever, c'était Télépop Music sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Allô ?
Voilà ?
Monsieur, vous ne pouvez pas passer. Je suis désolé, mais les Dorians sont interdits dans le train. Ça sent trop fort.
C'est vrai, c'est...
Oui, oui, ça peut gêner les gens dans le train, désolé. Je suis désolé, il faut le manger avant de monter dans le train ou le laisser ici. Ne vous inquiétez pas, on en raffole, nous. On va le déguster entre collègues, on fera la fête.
Bon, ben d'accord. Moi, je vous laisse pour faire la fête.
Philippe Googler. Alors là, c'était avec vos deux fruits qui sentent terriblement mauvais.
Ah ben, c'est vrai que ça pue. Hein. C'est vraiment, c'est un cauchemar.
Ouais.
C'est des fruits que les Indonésiens sont très friands. Ouais. C'est un espèce de gros fruit avec des pics comme ça. Quand on ouvre, ça sent une odeur épouvantable. Ouais. Le goût n'est pas à la hauteur de l'odeur. Ouais. C'est comme le maroilles. Si ouais. Ça sent très mauvais, mais le goût est plutôt sympa. Ouais. Mais ça sent un peu une sorte de bête morte, vous voyez, de trucs crevés au fond de la cave. D'accord. Et ben, ça sent ça. D'accord. Et donc c'est interdit de monter dedans dans les trains parce qu'il y a des gens qui se sentent mal à cause de l'odeur.
Ouais. Ça s'appelle donc le durian, ce fruit qui pue. Ouais. Alors là par contre je vous soupçonne de l'avoir mis un peu en scène hein, parce que vous le cherchez, ça vous le saviez, j'imagine qu'on peut pas monter dans le train avec ce fruit. Puis vous allez au marché, vous dites tiens je vais les prendre pour manger ça pour mon pique-nique. Dans le train vous vous baladez ostensiblement devant le...
Il faut bien que je teste.
Alors en Indonésie, évidemment, c'est ce qui est bien aussi dans cette série des trains pas comme les autres, c'est que le fil conducteur, c'est vraiment le fil de la voie ferrée, mais évidemment, c'est d'aller d'un lieu à un autre et de découvrir des endroits assez extraordinaires une fois qu'on descend du train et qu'on quitte le train. Et là, en Indonésie, vous avez découvert, c'est un sport que je connaissais pas là pour le coup, c'est du surf dans les rizières.
Ah ouais, ça c'est fou.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Et ça c'est fou parce que, alors ça vraiment je connaissais pas du tout. En fait, ça se passe donc dans la région du Minangkabau, là où les femmes transmettent à leurs filles. À la fin de la saison, quand il s'agit de labourer les champs, au lieu de faire du labour classique, ils organisent une sorte de fête. Et donc vous prenez un surf, vous l'accrochez derrière deux vaches avec un système qui ressemble un peu, vous savez, au wishbone des planches à voile.
Des planches à voile, ouais.
Donc vous accrochez deux wishbone à deux vaches comme ça, et puis au bout des wishbone, une sorte de surf sur lequel vous vous posez. Vous empoignez les vaches par la queue, et pour faire avancer le tout, vous donnez un grand coup de dent dans la queue de la vache. Ouais.
Et alors évidemment, c'est un poil dangereux. Il faut imaginer énormément de gens qui pataugent dans ces rizières avec ces bœufs plus ou moins surexcités. Évidemment, on prend soin de vous mettre en garde. C'est quand même un peu dangereux.
Il faut faire attention. Avant le départ, les vaches sont très nerveuses. Il y a du monde partout et elles sentent qu'il se passe quelque chose d'anormal pour elles.
Ils sont très concentrés, hein, ça rigole pas.
Oh là 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 là, oh là là, le bazar. C'est dingue. Reprenons. Comment s'appelle ce sport de fou?
C'est la course de buffle. Ici, on appelle ça le pakujawi.
Et comment ils font pour faire avancer la vache?
Si vous regardez bien, le jockey tire sur la queue, mais surtout, il la mord quand la vache n'est pas assez rapide. Ça la rend très nerveuse, et ça peut être dangereux.
Et c'est très dangereux. Quand on a commencé à filmer ça, nous, on y allait un petit peu cool. On a dit, bon, bah, des vaches, on surfe derrière, c'est gentil.
Ouais.
Et puis tout à coup, effectivement, quand ils commencent à mordre les vaches ou les buffles, les animaux deviennent très nerveux. Et donc ça court partout, mais vous avez, vous, les pieds nus dans l'eau, parce que vous n'êtes pas avec vos chaussures, et au fond des rizières, il y a de l'eau. Donc vous avez les pieds nus, et puis à côté de vous, des vaches qui bougent dans tous les sens avec leurs sabots. Donc c'est panique à bord, parce que vous imaginez immédiatement un sabot sur votre pied, et donc ça fait très peur. Et donc vous sortez de la rizière à toute vitesse en vous disant « je ne reste pas là ». Et les gars qui tiennent les vaches, mais c'est des montagnes de muscles, hein, parce que en fait, il y a quasiment rien pour tenir les vaches, à part la queue et puis ces deux pauvres wishbones. Et ils réussissent à les garder ensemble pour être tractés comme ça. À toute vitesse, ça va très très vite.
Et effectivement, grâce aux images, vous avez fait quelques ralentis et on les voit qui mordent à pleines dents dans la queue des vaches pour les avancer.
Ben oui, parce que vous avez déjà mordu une queue de vache.
Non, ça n'est pas arrivé.
Et ben, il faut y aller. Oui. C'est parce que la vache, elle a du cuir épais, même un peu sur la queue. Donc pour qu'elle sente quelque chose, il faut mordre très fort. Ouais. Non, c'est un drôle de sport.
Ça fait des images super. En tout cas, il faut imaginer ces rizières avec du coup ces mouvements d'eau, ces buffles qui avancent et puis ces surfeurs improbables derrière.
Et ça, vous voyez, on n'y est allé que parce qu'il y avait une gare dans le coin. On est allé dans la région du Minangkabau et à Padang, et donc pas très loin de ces endroits, il y a ces compétitions de buffles. Mais on ne serait jamais allé dans ce coin-là si on n'avait pas trouvé un train.
C'est aussi pour eux, alors c'est effectivement un amusement, mais c'est aussi pour eux l'occasion de labourer le sol. Ça a une utilité en fait, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de se mettre en danger.
Oui, au départ c'est pour labourer le sol, mais joyeusement.
Ah oui, là ils le font vraiment joyeusement. Alors je le rappelle, cet épisode-là, il a déjà été diffusé, mais on peut le voir en replay gratuitement.
Oui.
Sur le site de France 5 pour ceux dont la curiosité aurait été piquée pour voir à quoi ressemble ce surf des rizières. Allez, on file en Finlande maintenant. Alors là, vous avez fait un superbe voyage. Vous êtes arrivé à Helsinki. On évoquait tout à l'heure cette personne un peu étonnante au milieu d'un bras de mer qui fait des trous dans la glace et qui pêche des poissons. Déjà, on a une idée de cette ville, comme vous disiez, un petit peu fantasque, un petit peu fantaisiste.
Oui, c'est le petit grain de folie des Finlandais. Vous êtes au milieu, on n'imagine pas ça. Imaginez au milieu de Paris ou de Lyon, quelqu'un qui se met sur la rivière ou le fleuve de la ville et qui, parce que c'est gelé, prend son matériel, fait un trou dans la glace, se met à pêcher et puis à côté de ça, vous avez le Parlement, etc. Mais tout ça est normal et donc il pêche ses poissons dans la glace. Et moi, c'est pareil, c'est des petites rencontres comme ça improbables que j'aime beaucoup.
Alors, vous êtes parti, donc ça c'était à Helsinki, vous êtes parti d'Helsinki et là vous avez pris un train vers le Grand Nord, la Laponie.
Oui.
Et là, alors déjà, c'est étonnant de se dire que quand on est à Helsinki, quand on décide de partir en vacances, au lieu d'aller se mettre au chaud, on va là où il fait encore plus froid pour se baigner dans une eau dans une eau absolument glaciale.
Ouais, ben les Finlandais ils sont comme ça. Quand ils partent en vacances, beaucoup partent au nord, là où il fait très froid, parce qu'ils aiment. Il y a un rapport à la nature qui est très particulier. Il y a vraiment un goût et même aussi un goût de la solitude. Beaucoup de Finlandais ont ce qu'ils appellent des cabanes, c'est-à-dire c'est des toutes petites maisons de vacances. Perdus dans la Laponie, et ils y vont tout seuls ou avec quelques amis. Il y a un goût très particulier pour la solitude et la tranquillité.
Ouais. Et c'est vrai que c'est la tranquillité qui vous frappe. Quand vous arrivez donc au bout de cette longue ligne de chemin de fer que vous arrivez en Laponie, la première chose qui vous frappe finalement, c'est pas le blanc, c'est pas le froid, c'est l'immobilité.
Oui. Oui, parce que tout est glacé. Et souvent, on se dit, oh là là, je vais être impressionné par le froid. Mais en fait, rien ne bouge. Et si vous êtes un jour où il n'y a pas de vent, vous n'avez pas de vent, pas une feuille qui bouge, pas un bruit, pas un animal, il n'y a rien qui bouge. C'est le silence total. Et c'est plus le silence qui vous marque quand vous arrivez en Laponie que finalement le froid, même s'il est intense.
Ouais. Vous allez découvrir un endroit féerique. Féerique. Vous disiez pas un seul animal, finalement, si vous allez aller à la rencontre d'un éleveur de rennes. Très, très touchant, cet éleveur de rennes. Et alors, lui aussi, il vous fait vivre. Vous vous dites, j'ai l'impression d'être dans un conte de Noël. Hein.
Oui, parce que j'y suis allé un petit peu comme ça, en me disant, bon, ça va être intéressant, mais pas dingue, parce que sur le papier, c'est un éleveur de rennes qui va nourrir ses rennes pendant l'hiver. Bon, ok, on y va, on va voir. Alors, on a rendez-vous dans la forêt avec lui, pas très loin de sa ferme. Et donc, on part en skidoo. À l'arrière du skidoo, il y a une petite réserve d'aliments. Et puis, on avance, comme ça, tout seul. Et puis, au loin, il y a des rennes qui entendent le bruit du skidoo. Et donc, ils savent que c'est l'heure de manger. Et donc, ils se rapprochent. Et donc, vous avancez dans la forêt avec votre skidoo. Puis, d'un coup, vous avez un renne qui vous suit. Puis 2, puis 3, puis 10, puis 100. Puis 500. Et donc là, tout à coup, c'est un spectacle incroyable parce que vous êtes tout seul là avec ce troupeau de 500 rennes qui avancent en douceur dans la neige. Vous n'entendez pas beaucoup de bruit. Ils attendent, ils marchent avec vous, comme ça. Et donc, c'est assez troublant. Et puis, tout à coup, l'éleveur trouve un immense champ plat, tout blanc, pareil, silencieux, immobile, pas d'oiseaux, pas d'animaux, juste les 500 rennes derrière. Et puis il se met à faire un grand cercle, un immense cercle, avec les aliments qu'il déverse depuis l'arrière de sa benne.
Avec son motoneige, hein, il trace un cercle dans ce champ.
Gigantesque cercle. Et les sacs se mettent à manger tout autour de ce cercle. Et il le fait en cercle comme ça pour éviter que, si vous mettez toute la nourriture au même endroit, les rennes vont se battre. Mmh. Donc il les étale comme ça en cercle. Et là, c'est un spectacle, mais féerique. C'est sublime.
Ouais, on se retrouve avec un anneau formé de cerfs. Ouais. Et là, vous avez fait des images vues en hauteur, hein, vues du ciel. Oui. On voit ce cercle se dessiner.
C'est sublime. Franchement, c'est un très très beau spectacle. Et c'est pas loin de chez nous, c'est en Europe. Hein. C'est tout près et c'est très très loin en même temps.
Et il est très fier de son métier, cet éleveur de rennes.
Devenir éleveur de rennes, c'est accepter de faire un choix de vie où tu devras te satisfaire de peu de choses. Mais j'ai besoin de savoir que ça va continuer après moi.
Mais alors pourquoi est-ce que c'est si important qu'il y ait encore des gardiens de rennes dans le futur ?
Tu sais, dans notre famille, on est éleveur depuis plusieurs générations. Et ici, en Laponie, c'est un métier très respecté. Alors pour moi, pour nous, c'est très important que ça ne disparaisse pas. Ça fait partie de nos traditions, de nos modes de vie. Notre vie est faite de choses simples. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous n'avons pas envie de la vie des villes. On n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a tout ce dont on a besoin. On se nourrit de la viande des rennes, on fait des vêtements avec leur peau. Ça nous suffit. C'est ça notre richesse.
C'est le genre de rencontres qui doivent marquer, hein, quand même, qui font réfléchir.
Oui, et puis on partage des choses intenses. Très rapidement, on est tellement plongé dans une autre planète, une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses, un autre rapport à la nature, que oui, ça interroge beaucoup sur soi-même. Et puis c'est des souvenirs marquants.
Philippe Gougler, je ne l'ai pas encore dit en vous présentant, mais vous êtes aussi le présentateur de Faut pas rêver sur France 3. L'émission continue, reprend à la rentrée.
Oui, tout à fait, elle reprendra le 25 septembre, après une petite pause de vacances. Ce sera une émission sur, très jolie aussi, sur la Norvège.
Sur la Norvège. Voilà. Ah ouais, on reste un peu dans les mêmes, dans les mêmes latitudes.
Mais Norvège vue avec le soleil. Là, la Finlande dont on parlait, c'est vraiment la Finlande sous la neige, dans le froid et tout. Et ça, c'est jeudi à 20h50.
Mais bien sûr, la Finlande sous la neige avec cet éleveur de rennes très touchant. C'est donc l'épisode qui sera diffusé jeudi prochain à 20h50 sur France 5. Celui sur l'Indonésie est disponible en replay sur le site de France 5. C'est quoi les prochaines destinations en train, Philippe Gougler ?
Alors, en train, donc Finlande 20h50, jeudi.
Non, pour vous, c'est les voyages
miennes.
Que vous allez faire.
Je vais
vous
lire le programme.
Non, on arrête avec la promo. Dites-nous ce que vous allez faire en voyage.
J'ai honte parce que je pars un petit coup en vacances, mais en avion.
Ah, bah bravo.
Je sais pas si je dois le dire.
Vous avez le droit aussi. Bon, d'accord. Et pas de prochain train prévu ?
Si. Les prochains tournages devraient reprendre à la rentrée. Pour, si tout va bien, une nouvelle saison. Donc on tourne en général pendant tout l'hiver pour pouvoir proposer les programmes tout l'été.
Merci Philippe Gougler, on vous souhaite donc de bons voyages. Merci. Et nous, dans un instant, on file à La Réunion où je crois que vous étiez il n'y a pas plus tard que 15 jours.
Oui, j'étais il y a 15 jours pour un tournage pour Faut pas rêver. Ouais. D'ailleurs, je vous ai dit une grosse bêtise, c'est pas la Norvège le 25 septembre qui passe, c'est La Réunion, c'est ce qu'on vient de tourner justement.
Bah alors,
vous faites bien de m'en parler,
heureusement,
excusez-moi.
Heureusement que
pas
je suis
content,
là
mes petits camarades de Faut pas rêver. Oui, ce sera sur La Réunion le 25 septembre.
Eh ben nous, La Réunion, on y file dans un instant.
Et le soleil ne se voit. lance l'SOS. S'il est là, ceci, lance Oli.
L'assaut, c'était Camille sur France Inter dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Djoubaka. Et à 17h52, presque 53, on file à La Réunion.
Allô,
allô.
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment?
Oui, oui, mais c'est le satellite qui m'attend.
Eh oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Bonjour, Aline Pelletier.
Bonjour.
Vous êtes volcanologue, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Pour vous, à La Réunion, il est 19h53, si je ne me trompe pas. Le volcan est en éruption depuis plusieurs jours. Maintenant, depuis combien de temps exactement il est entré en éruption, ce Piton de la Fournaise ?
Effectivement, donc il est en éruption depuis maintenant 11 jours. Depuis le 14 juillet, il nous a donné donc un feu d'artifice naturel pour la fête nationale.
Ah oui.
Et donc une activité qui se poursuit.
Qui se poursuit. Ça ressemble à quoi cette éruption? Elle est particulièrement importante?
Non, cette éruption est assez classique, on va dire. On a eu la chance de se rendre sur site le premier jour de l'éruption, l'activité la plus intense par contre, avec une activité, on va dire, sur 400 mètres de long.
Ah ouais.
Donc c'est une éruption, on va dire, classique, des fontaines de lave assez modestes, avec des hauteurs de lave d'une trentaine de mètres de haut. Et très vite, cette activité s'est focalisée en un seul point, mais qui est toujours visible actuellement, notamment pour les visiteurs qui se rendent sur le volcan.
D'accord, donc ça semble pas dangereux. Les touristes peuvent encore venir profiter du spectacle.
Effectivement, là, donc depuis le 14 juillet, c'est un balai incessant de visiteurs. Hein. C'est plusieurs milliers de personnes qui se rendent donc jusqu'au parking du volcan. Il faut savoir que l'accès, par contre, au sommet du volcan est interdit en phase éruptive au Piton de la Fournaise. Mmh. Et on a la chance d'avoir des points de vue quand même sur le site éruptif. Et les visiteurs peuvent observer le spectacle à 2 km de distance. Donc, ça permet quand même de voir des belles choses et des rougeoiements, notamment de nuit ou au lever du soleil.
Donc, on n'a pas de coulée de lave, parce que pour qui est déjà allé à La Réunion, il y a certaines coulées de lave qui ont vraiment laissé des traces, hein, même sur le bord de la route. On voit encore ces coulées qui ont maintenant séché et qui se sont refroidies. Là, on n'en est pas là.
Ah non, effectivement, pour l'instant, les coulées restent assez hauts sur l'édifice volcanique. Elles ont parcouru à peu près 3 km de longueur et il leur resterait encore 10 km à parcourir pour atteindre la route nationale et la mer. Donc pour l'instant, on en est très loin.
Ouais.
Surtout que l'activité est en train de se stabiliser et de rester justement dans cette partie assez sommitale du volcan.
Ouais. Aline Pelletier, c'est tout de même la deuxième éruption depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, ce volcan est particulièrement actif ?
Effectivement, donc depuis 2014, en fait, il y a un regain d'activité au Piton de la Fournaise, avec en moyenne 2 ou 3 éruptions par an, avec des éruptions qui durent entre moins de 24 heures, et on a eu la chance en 2015 d'avoir une éruption qui a duré plusieurs mois, qui a duré 63 jours. Actuellement, on en est donc au 11e jour de cette éruption et on attend de voir si celle-ci va durer un petit peu plus longtemps.
Alors vous le dites, Aline Pelletier, on a eu la chance d'avoir une éruption. Parfois on se dit quand on habite près d'un volcan que c'est ce qu'on redoute, l'éruption. Vous, apparemment, c'est une chance. Alors qu'est-ce que vous en profitez pour faire autour du volcan là depuis une quinzaine de jours? Quel genre d'études vous menez autour du volcan en éruption?
Donc effectivement, nous à l'Observatoire, c'est toujours une chance d'avoir des éruptions puisqu'on a quand même des appareils de mesure à proximité donc qui nous permettent d'anticiper ces éruptions. Et en plus de ces appareils de mesure, on se rend régulièrement sur site afin donc de mieux comprendre le fonctionnement du volcan, notamment en faisant des prélèvements de lave au plus près du site éruptif. Et tous ces enseignements vont nous permettre donc de mieux comprendre comment fonctionne ce volcan, comment fonctionnent les volcans effusifs en général, notamment les comparant ici à d'autres volcans, donc ce qui nous permet donc de mieux comprendre et de mieux anticiper encore la survenance de ces éruptions au piton de la Fournaise.
Il est particulièrement équipé, hein, ce volcan. On dit que c'est le plus surveillé du monde. Vous l'aviez vu venir, cette éruption survenue le 14 juillet ?
Effectivement, donc c'est l'un des volcans les plus surveillés au monde, puisqu'on a quand même une centaine d'instruments sur site, donc qui nous permet d'avoir les signaux avant-coureurs des éruptions. Et donc depuis le 17 mai dernier, on a eu une éruption qui avait avorté. En fait, on avait une injection de magma qui était partie de la chambre magmatique vers la surface, mais qui n'avait pas abouti en surface. Et depuis cette éruption avortée, on avait donc des signaux précurseurs, que ce soit donc un gonflement du volcan, une petite sismicité, un dégazage, qui nous montrait que quelque chose se préparait. Et en fait, tout s'est accéléré le 13 juillet. Et donc, le 13 juillet, on a eu donc cette crise sismique qui a permis d'alerter les autorités et d'anticiper cette éruption.
Aline Pelletier, notre invité, Philippe Googler, est resté avec nous. Il me fait un signe.
Oui. Bonjour, Aline.
Ah bah, apparemment, vous connaissez. Vous connaissez.
Mais oui. Et j'interviens parce que je veux souligner ce qu'elle vient de dire, parce que c'est vrai, elle l'avait prévu. Ouais. Parce que j'étais avec Aline sur le volcan 2-3 jours avant. Et elle m'a dit, ça va intervenir sous 24, 48, 72 heures. C'est maintenant. Et je suis là pour témoigner, parce qu'on est en train de tourner l'émission Faut pas rêver sur un autre sujet. Et elle est très forte. Et elle est super, elle est géniale. Et elle m'a montré ce volcan, un des plus surveillés du monde. Ouais. Et elle est géniale. Et on la retrouve dans l'émission de Faut pas rêver, d'ailleurs, le 25 septembre.
Bah voilà, Aline, vous avez pas fait le déplacement pour rien. Un grand merci à vous, Aline Pelletier, de nous avoir fait partager votre enthousiasme pour ce volcan superbe de la Réunion, le Piton de la Fournaise. Merci et on vous laisse continuer. Donc, je crois que vous y retournez dès jeudi vos investigations sur ce volcan. Au revoir.
Oui, c'est ça. Merci.
Au revoir, Aline.
Merci pour ce merveilleux spectacle. La routine.
Demain à 16h, nous verrons jusqu'où le corps humain peut s'adapter quand il est confronté aux milieux les plus hostiles, avec l'explorateur Christian Clos qui a testé sous contrôle médical ses capacités d'adaptation dans des régions présentant les climats les plus rudes de la planète. Puis à 17h, nous reviendrons sur la vie et l'œuvre d'un grand journaliste, le journaliste Albert Londres. À demain donc pour de nouvelles aventures. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Julia Molcou pour un nouveau Mac de l'été. Julia vous invite comme tout l'été pour découvrir donc je ne sais pas quel est le programme de Julia, mais on verra bien. Voilà, c'est tout de suite.